Chapitre 91. 2018. On est en avril et il devrait faire beau. Assise sur les galets de la plage du Croc, Nina observe l'église jaune dont Lily lui a parlé pour la première fois il y a 15 ans. Depuis, Nina y est souvent entrée pour brûler des cierges. Qui que vous soyez, protégez ceux que j'aime. Depuis quelques mois, Romain a rejoint la liste de ses vœux. Ce matin, la mer dégorge. Nuances de bleu et de vert qui bataillent, la ligne d'horizon est violette, le vent sèche les lèvres. Nina est arrivée à Cagnes-sur-Mer avec Romain, sur un coup de tête, pour passer le week-end de Pâques avec Lily. Romain et Lily sont partis sur le marché. Nina adore cette solitude. Écouter de la musique dans ses écouteurs, se couper du monde depuis son lopin de terre imaginaire en observant la Méditerranée, sa valse langoureuse et aveuglante qui fait mal aux yeux. Elle pense à son grand-père qui ne l'a jamais vue. Il commence à pleuvoir. Elle rentre, monte les trois étages du vieil immeuble, les tomates rouges sur le sol, les odeurs de cuisine dans l'escalier. Sur le balcon dont les deux baies vitrées sont entr'ouvertes et vibrent sous le vent, Lily a planté des pieds de tomates cerises dans des pots qui ont la même couleur que ses vêtements, rouge, jaune et vert. Nina va dans la salle de bain pour essuyer son visage, se regarde dans le miroir. Aujourd'hui, Romain lui a dit qu'elle ressemblait à une sino-afghane. Il lui invente un métissage chaque jour, c'est son grand jeu au réveil. Ce matin, tu as une tête de turco-russe, d'arabo-polynésienne, de thaïlando-serbo-croate, d'italo-brésilienne, d'italo-marocaine. Elle passe la main dans ses cheveux noirs coupés au carré. Ses yeux en amande ont la même couleur que sa chevelure. Quelques taches brunes viennent de faire leur apparition autour de ses lèvres pleines. Son téléphone sonne. Un numéro qui commence par 03. Elle reconnaît l'indicatif de la Bourgogne. Ce n'est ni le numéro du refuge, ni celui de Simone.
Je ne pouvais pas attendre mardi prochain pour vous parler.
C'est la voix de son médecin qui claque comme le vent à l'extérieur. Mylène Vidal a remplacé le docteur Lecoq en 2006 lorsqu'il a pris sa retraite. La première fois que Nina l'a rencontrée, elle s'est sentie en confiance. La consultation a duré plus d'une heure. Nina lui a raconté son enfance et le jour où elle a vu le dossier médical de sa mère dans les mains de Lecoq, 20 ans plus tôt. Mylène Vidal a cherché dans son ordinateur et vu que le dossier de Marion Beau avait été envoyé dans un centre médical à Villers-sur-Mer en 1999. Elle a contacté ses confrères en Normandie.
« Bonjour, j'effectue une recherche génétique pour un don d'organes. Je souhaite joindre Marion Beau, une ancienne patiente, née le 3 juillet 1958. »
Une minute après, Nina tenait l'adresse de sa mère ainsi qu'un numéro de téléphone entre ses mains. Nina a gardé cette adresse et ses chiffres griffonnés au feutre noir pendant des années au fond d'un tiroir. Plusieurs fois, elle a composé le numéro de téléphone et raccroché avant que quelqu'un réponde. Puis elle a revu Marion, entre la vie et la mort, en 2011, et découvert que sa mère avait elle aussi son numéro de téléphone. Comment l'avait-elle obtenu? Pourquoi ne s'était-elle jamais appelée? Pourquoi avait-elle eu si peur l'une de l'autre? Le jour de l'enterrement de Marion, ils étaient quatre. Nina, Lily, l'employé des pompes funèbres et un petit homme chauve, les yeux clairs, l'air débonnaire. Nina ne s'attendait pas à voir un inconnu au cimetière d'Auberville ce matin-là. C'était comme si un intrus débarquait à une fête qu'elle aurait organisée. « Vous connaissiez Marion Beau ?»« Oui, c'était une amie d'enfance. »« Vous êtes mon père ?»« Non, » a-t-il souri. Marion était une simple amie. Il n'y a pas de simples amis. L'homme a été troublé par les mots de Nina. Ils se sont salués et sont repartis chacun de leur côté. Quelques semaines après, Nina a reçu une lettre refuge. Chère Nina, je suis Laurent, l'ami de ta mère. Nous nous sommes parlé brièvement au cimetière, trop brièvement. Avec le recul, je pense que tu as raison. Il n'y a pas de simples amis. Elle était un peu la sœur que je n'ai jamais eue. J'ai bien connu tes grands-parents, surtout ta grand-mère. C'est une des raisons pour lesquelles je t'écris. Parce qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient. Et je t'ai sentie pleine de questions. Ta grand-mère était une femme douce et délicate. Je tiens à ce que tu saches qu'Odile Beau est un de mes plus jolis souvenirs. Quand elle faisait un gâteau, elle en faisait toujours assez pour en donner aux autres. Des bols de soupe étaient distribués aux célibataires et aux vieux du quartier. Je ne repartais jamais de chez elle les mains vides. Tu donneras ça à tes parents ? Toujours un morceau de tarte, un pot de confiture, des pommes, du verger. Parfois, je quittais la maison en douce pour ne pas qu'elle me voie. J'en avais marre de porter toutes ces choses qu'elle me refilait inévitablement. Si tu savais comme je regrette. La vie est injuste, mais cela, je ne te l'apprends pas, Nina. Le diable touche davantage les anges que les salauds. C'est bien connu. Leur cœur est si facile à dévorer. En 1973, Odile est tombée malade. Elle parlait de son cancer comme d'une mauvaise grippe. « Ça va passer. » Elle ne voulait pas faire de bruit. Je te l'ai dit, elle était délicate, sans doute trop. Sa santé s'est détériorée. Désormais, je repartais de chez elle les mains vides, sans me cacher. Marion a changé. Elle, si drôle et légère, pétillante et désinvolte, est devenue grave et blessante. Elle m'insultait, insultait le ciel, Dieu et tout ce qui lui tombait sous la main. Et surtout, elle accusait son père. Elle lui en voulait de minimiser la maladie de sa femme. « Il ne veut pas l'emmener à l'hôpital, il veut garder Bobonne sous la main. Putain, Laurent, ma mère va crever !» J'ai tenté d'expliquer à Marion que ton grand-père n'était pas le seul responsable. Je lui répétais « Laisse les idées noires survoler ta tête, mais ne les laisse jamais faire leur nid dans tes cheveux. » Mais Marion ne m'écoutait plus. Quand Odile s'est éteinte à l'hôpital, ton grand-père a téléphoné à mes parents pour dire que c'était fini. Marion était chez moi. Elle a tout cassé dans la maison. Elle était incontrôlable. Elle n'est pas allée à l'enterrement. Cela a choqué toute la ville, mais elle se fichait de choquer. Elle souffrait trop pour penser à ce que pensaient les autres. À partir de ce jour, elle n'a plus mis les pieds à l'école. Elle a commencé à boire, à sortir, à fuguer, à faire n'importe quoi. Plus elle se détruisait, plus elle avait le sentiment de détruire son père. Je ne veux pas entrer dans des détails sordides qui saliraient la mémoire de Marion, beaucoup trop jeune pour un si grand drame. Perdre une maman, c'est perdre le monde. Je continuais à la voir. Nous nous retrouvions régulièrement dans un petit troquet de la Comelle qui n'existe plus. J'en arrive à toi. Tu m'as demandé si j'étais ton père. Tu ne t'appelles pas Nina par hasard. Si tu avais été un garçon, tu te serais prénommé Nawal. Un soir, Marion m'a annoncé qu'elle était amoureuse, que sa vie allait changer. Elle avait 17 ans, le garçon aussi. Je le connaissais de vue. Il prenait le même bus que moi pour aller au lycée. Il s'appelait Idras Zenati. Il était kabyle, un garçon timide, beau. Marion s'était assagie depuis qu'elle avait rencontré Idras. Ils ne se séparaient plus que pour rentrer chez leurs parents le soir. Marion prenait le bus avec nous, mais n'allait pas en cours. Elle l'attendait dans un café toute la journée. Elle est tombée enceinte. Les deux amoureux avaient planifié cette grossesse. Ils avaient pour projet de quitter leurs familles respectives pour fonder un foyer. Comme ils n'étaient pas majeurs, ils avaient déjà fait des démarches pour savoir comment obtenir leur émancipation. Mais tout a capoté. Dès qu'Idras a commencé à évoquer la jeune fille dont il était amoureux, française, enceinte de lui et qu'il voulait épouser, son père l'a fait taire. Le lendemain, il a emmené toute sa famille en Algérie. Ils sont partis comme des voleurs, laissant tout derrière eux pour échapper à la honte. Idras a réussi à prévenir Marion par téléphone. « Il me kidnappe. Je reviendrai quand je serai majeure. Attends-moi, je reviendrai. » Marion était enceinte de 6 mois. Au vide et à l'absence s'est ajoutée la solitude. Elle n'avait plus que moi. Les autres l'avaient fui. Nous avons fêté ses 18 ans un mois avant ta naissance, tous les deux. Et déjà, Marion avait échafaudé un plan diabolique pour détruire ton grand-père, comme elle disait. Elle a accouché et t'a presque aussitôt confiée à lui avant de partir s'installer en région parisienne avec moi. Car c'est chez moi que ta mère s'est réfugiée après ta naissance. Nous vivions à deux dans une chambre de bonne. Moi, je poursuivais mes études et elle travaillait dans une boulangerie du quartier. Elle ne voulait plus entendre parler d'école, d'apprentissage, d'avenir, d'Idras. Au fond, ça m'arrange qu'il soit parti, me répétait-elle. Qu'est-ce que j'aurais fait d'un mari à mon âge ? Elle mentait. Elle espérait toujours qu'à sa majorité, Idras reviendrait en France et que tous les deux iraient te récupérer. Mais il n'est jamais revenu. Et il y a pire, Nina. Marion en voulait tellement à Pierre d'avoir laissé mourir Odile qu'elle a inventé une histoire terrible. Elle lui a fait croire que tu étais le fruit d'un viol. Si tu avais vu sa tête quand je lui ai raconté ça, m'a-t-elle avoué en souriant tristement. Maman est vengée. Je l'ai suppliée de dire la vérité à ton grand-père, que tu étais une enfant de l'amour, que si elle ne le faisait pas, moi, je le dirais. Elle m'a répondu, « Tout le monde m'a trahi. Pas toi, Laurent. Pas toi. » Un soir, je suis rentrée de la fac. Marion était partie. Elle m'avait laissé un mot. « Merci pour tout. Gros bisous. » Elle avait cessé de vous attendre, Idras et toi. J'imagine que le père d'Idras l'avait convaincu que Marion était une mauvaise fille, qu'il ne pouvait pas être le père de l'enfant. S'il avait pu te voir ne serait-ce qu'un instant, il aurait compris que c'était faux. Marion m'a rappelé des années après son départ. Elle vivait en Bretagne, faisait les marchés avec un type qu'elle avait rencontré là-bas.
« Franchement, mon Lolo, je suis bien, j'ai ma vie maintenant. »
Que signifiait « j'ai ma vie maintenant » ? L'été 1980, je suis allée voir ton grand-père. Tu jouais dans le jardin. Te voir m'a bouleversée. Tu étais si jolie. Une biche. Oui, j'ai ce souvenir de toi. Un petit animal gracile et doux. Tu m'as dit « Bonjour, monsieur. » Et j'ai fondu en larmes. Ce jour-là, j'ai raconté la vérité à Pierre. Que tu étais l'enfant d'Idras Zenati. Qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Il a fait semblant de me croire. Il m'a répondu « Nina est mon petit. Peu importe d'où elle vient, c'est mon petit. » Voilà, Nina. Tu sais un peu plus de choses à présent. Je te joins mon numéro de téléphone et une photo de classe que j'ai retrouvée. Ton père est le deuxième garçon du premier rang en partant de la gauche, celui qui porte un pull-over à rayures bleues. Sur ce cliché, il a 16 ans. Je t'embrasse bien affectueusement, Laurent. Nina a regardé longtemps ce bel adolescent aux yeux clairs et doux. Elle avait envie de crier sur tous les toits. « C'est lui, mon père ! J'ai un père, regardez comme il est beau !» Et la photo a rejoint le tiroir où elle avait rangé l'adresse de Marion en Normandie, celle griffonnée quelques années auparavant par le docteur Vidal sur un morceau de papier. Son père aurait toujours 16 ans. Idras et Marion s'étaient aimés, c'était ça le plus important. Son grand-père l'avait élevé, c'était ça le plus important. Elle était née d'un amour de jeunesse. Cette lettre, Nina l'avait attendue toute sa vie. Elle avait fini par la recevoir. Nina est toujours dans la salle de bain, son téléphone collé à l'oreille. Elle entend les rires de Romain et Lily dans l'escalier. Deux adolescents dans un couloir de collège. Romain a la légèreté d'un papillon et possède la joie des élèves qu'il supervise.
Nina, le laboratoire vient de m'envoyer le résultat de vos analyses.
Le retour sur Terre est brutal. Le ton de Mylène Vidal est presque solennel. Nina pense aussitôt à la maladie d'Étienne et d'Odile. Cette fatigue qu'elle trimballe depuis des semaines, cette douleur lancinante dans le dos. Nina tremble. Elle s'assied sur le rebord de la baignoire. Elle songe à eux trois et à Romain. Nous étions pourtant si bien.
Où êtes-vous ?
Au bord de la mer, souffle Nina.
Vous n'êtes pas à la Comelle ?
Mylène Vidal paraît contrariée. Non, répond Nina. Partie pour le week-end ?
Seule ?
En famille, avec mon amie, C'est très con le mot ami, pense Nina tout à coup. Mais moins que compagnon. Ça, je laisse pour mes chiens. Et je ne vais pas dire mec ou amoureux à mon médecin. On est en avril et il devrait faire beau. Elle ferme la porte de la salle de bain à clé. Écoute les éclats de voix joyeux de Lily et Romain dans la cuisine, qui ne savent pas encore, se dit-elle. Nina a envie de raccrocher. Et si on attendait la semaine prochaine pour les mauvaises nouvelles ? J'ai quelque chose de grave ? Finit-elle par chuchoter.
Pas du tout, Nina. Tout est parfait.
Alors quoi ?
Vous êtes enceinte.